Bonjour à celles et ceux que j'ai pas vus de près. On continue dans notre épître aux Romains. Et on va avancer un petit peu. Comme je disais à Gérard ce matin avant le culte, c'est difficile d'enseigner l'épître aux Romains par petits bouts de demi-heure le dimanche matin. C'est tellement des gros morceaux qu'il faudrait pouvoir voir avec beaucoup de temps. Alors on est obligé de faire des petits découpages. Et on avait été jusqu'au verset 16 la dernière fois, je vais commencer au verset 17 et m'arrêter au verset 17 pour ce qui est de l'épître aux Romains pour aujourd'hui. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Alors, c'est un des thèmes essentiels des premiers chapitres, des 8 ou 9, en tout cas des 8 premiers chapitres, hein, la justification par la foi de l'Épître aux Romains. Donc on ne va pas tout voir ce matin. Et puis les versets suivants, je ne les aborde pas parce que Paul commence avec un développement dans lequel il fait plusieurs parenthèses. Et puis on verra ça la prochaine fois. Mais je veux m'arrêter sur ce verset 1-17. Cet évangile, donc rappelez-vous chaque fois qu'il y a le mot évangile, c'est vrai que c'est une question que j'aurais aimé poser à notre invité l'autre fois, si professeur du Nouveau Testament, est-ce qu'il sait pourquoi? Pourquoi il y a quelques mots comme ça qu'on ne traduit pas, hein? Pourquoi on a gardé évangile alors que c'est une bonne nouvelle et puis on pourrait traduire par bonne nouvelle puisqu'on a traduit tout le reste, quoi, hein? Mais rappelez-vous, parce que quand on utilise un mot comme un nom propre, au bout d'un moment il perd son contenu, hein? Et on ne sait plus ce que ça veut dire. Quand Paul l'utilisait, il l'utilisait pas comme un nom propre. C'était du langage, comme c'était des mots comme les autres mots. Il n'y avait pas une majuscule. Et puis c'était pas quelque chose. Parce qu'on met tous beaucoup de choses derrière ces mots qui sont utilisés comme des noms propres. Normalement, ben, ça se lit comme les autres. Il n'y a pas de majuscule. Hein. En effet, cette bonne nouvelle. Nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi, et rien que par la foi, comme il est dit dans les Écritures, le juste vivra par la foi. Alors, comme nous l'a encore rappelé ce matin Gérard, c'était très bien pour introduire mon introduction. Quand Paul écrit aux Romains aussi, même si c'est un peu plus tard que le texte qu'on a lu dans les Actes, le Nouveau Testament n'était pas encore là sous la forme où on le connaît. Hein. Il y avait déjà quelques lettres de Paul. Mais... Donc, comme il est dit dans les Écritures, de quoi parle Paul dans cet endroit-là? Il ne parle pas des autres endroits qu'il va écrire lui plus tard, ou des épîtres qui ne sont pas encore écrites, ou du Nouveau Testament qui n'est pas encore là. Bah, il fait allusion à un texte de l'Ancien Testament, bien sûr, hein, de Habacuc, et que je vais vous lire dans Habacuc 2, 4. Il est dit ceci dans la version du semeur, en tout cas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Donc c'était un texte, enfin Paul prend un bout de verset de l'Ancien Testament, et bah, quand même il donnait un sens plus spécifique, lui, en le développant au travers de l'Épître aux Romains. Hein. Mais déjà, ce qui est intéressant pour nous, et qu'on voit dans ce texte de l'Ancien Testament, et puis dans la reprise qu'en fait Paul, il n'est pas parlé de salut par la foi, même si c'est une réalité, il est parlé de vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Littéralement, le salut du juste, enfin, la vie du juste sort de la foi. On pourrait. C'est un peu lourd comme traduction, mais ça donne mieux le sens original. Hein. C'est pour ça qu'ils ont traduit grâce à la foi dans une traduction plus récente. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Et Romains, je le dis une dernière fois, celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Pardon, moi je suis déjà passé à Hébreu. Hein. Cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde, elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Là, il est parlé de foi et de justice. Et encore une fois, ces thèmes-là, la justification par la foi, vont être développés en détail dans les chapitres qui suivent. Alors, je le reprendrai quand on y arrivera. Mais ce qui m'a interpellé ce matin avec ce verset-là, c'est le fait que, justement, dans notre vocabulaire, bien souvent, on a une fausse conception de vivre par la foi. Déjà, cette expression est utilisée à tort, dans un contexte très spécifique. Chez les évangéliques, vivre par la foi, ça veut dire vivre avec un salaire qui vient des dons que font les autres. En gros, quoi, quand on parle de la mission. Ah, lui, il vit par la foi. Ça veut dire il n'a pas un salaire fixe, mais ses dons viennent de ce que les autres veulent lui envoyer, quoi. Il n'y a rien de mal avec ça. La Bible enseigne que celui qui annonce l'évangile vive de l'évangile. Donc, le problème n'est pas là. Simplement, cette expression est fausse. Recevoir son salaire des dons des autres parce qu'on est exclusivement occupé à l'annonce de l'évangile ou à l'enseignement ou quoi que ce soit, n'a rien à voir avec vivre par la foi. C'est deux choses complètement différentes. Il n'y a aucun lien entre elles. Si ce n'est que à une époque dans l'histoire de l'Église, il y a eu des gens qui avaient décidé de servir Dieu et qui voulaient pas avoir de salaire, qui voulaient pas faire de lettres de nouvelles, qui voulaient pas communiquer leurs besoins aux autres, comme Georges Müller avec ses orphelinats et d'autres, et puis qui disaient, nous, on veut dépendre de Dieu complètement, aussi financièrement, donc on prie, on remet nos besoins à Dieu, et Dieu pourvoit nos besoins matériels comme il pourvoit aux autres besoins. Et c'est vrai que dans ce cas-là, il y avait un lien étroit avec la foi qui fait confiance à Dieu pour plein de choses et qui fait aussi confiance à Dieu pour qu'il pourvoie dans le domaine matériel. Mais quand quelqu'un dit « moi je vis par la foi » et que toutes les semaines il vous envoie l'état de ses finances, ses besoins, ce dont il a besoin, combien il lui manque pour finir le mois, il n'y a rien de mal, puisque communiquer ses besoins, c'est pas un péché, mais ça s'appelle pas vivre par la foi, ça s'appelle faire de la communication sur nos besoins pour pouvoir vivre de ça. C'est correct, c'est bien, mais c'est pas ça. Alors, c'est un peu long, mais c'est important parce que on s'aperçoit que le vocabulaire qu'on utilise détermine notre façon de vivre. Ce que je mets derrière les mots conditionne ma vie, en fait, et en particulier dans le domaine de notre vie avec Dieu. On doit retrouver le bon sens des mots, selon ce que Dieu veut. Sinon, on passe à côté de choses parce qu'on croit les avoir. Et comme je dis souvent, ce qui fait le plus de tort aux chrétiens, c'est pas les fausses doctrines, parce qu'on sait que c'est les fausses doctrines, c'est la contrefaçon. C'est quand je crois avoir la vérité, parce que ça a l'apparence de la vérité, la couleur de la vérité, et en réalité, derrière, il n'y a pas le bon contenu. J'en parlais cette semaine dans une visite et vous savez qu'on a tellement besoin de redéfinir les mots, sinon ça crée des confusions. Juste pour illustrer ça, je l'avais déjà expliqué, mais quand on avait fait le premier culte Café Croissant, j'ai demandé à Thierry s'il voulait donner son témoignage. Le thème c'était est-ce que l'argent fait le bonheur, en gros, quoi. Donc, en tant qu'ancien banquier, il doit avoir des témoignages intéressants sur ça. Donc, je dis, est-ce que tu veux donner un témoignage pour ce culte-là? Et puis, une semaine avant, il était un peu inquiet. Et en parlant avec lui, je découvre qu'il ne voyait pas comment le récit de sa conversion pouvait aller avec le thème du jour, quoi. Je lui dis, mais je ne t'ai pas demandé le récit de ta conversion. Il me dit, mais si, tu m'as demandé mon témoignage. Et là, j'ai découvert que dans sa culture d'église, un témoignage, c'était raconter sa conversion. Alors que dans ma culture d'église à moi, un témoignage, c'était parler de ce que j'ai vu vivre avec Dieu, témoigner de quelque chose. Donc pas spécialement de notre conversion. Mais si on ne définit pas ce terme-là, Thierry était paralysé dans son idée. Moi, je ne comprends pas pourquoi il ne comprend pas. Et puis, ça n'a pas créé un conflit, mais on passe à côté. Donc, vivre par la foi, mettez à la poubelle l'idée que ceux qui vivent par la foi, c'est les missionnaires qui partent sans savoir d'où va venir leur soutien ou qui doivent le trouver par des lettres de nouvelles ou qui prient pour le recevoir. Ces gens-là vivent probablement aussi par la foi. Mais ici, il est dit, le juste vivra par la foi. Et le juste... Lorsque Paul utilise ce mot-là, et on voit que ce mot était déjà utilisé dans l'Ancien Testament, c'est celui qui est, si on peut faire une paraphrase du sens de ce mot, celui qui est déclaré conforme aux standards de sainteté de Dieu. C'est ça un juste. C'est pas celui qui pense avoir bien fait, hein. C'est pas celui qui a fait tout comme il faut. C'est pas celui qui satisfait une morale, qu'elle soit chrétienne ou pas d'ailleurs, ou une éthique quelconque. Le juste, c'est celui qui, dans les standards de sainteté de Dieu, est accepté comme étant au niveau, hein. Jugé digne de faire partie de la société de Dieu, on pourrait dire. Et ça, c'est important, puisque, et c'est pas par hasard que c'est à cet endroit-là, bien sûr, hein, puisque Paul, par la suite, va développer, ce qu'on verra une prochaine fois, le fait que tous sont pécheurs, qu'on soit juif, qu'on soit païen, qu'on soit ci, qu'on soit ça, tous sont pécheurs, hein. Donc, personne n'est juste. Et pourtant, là, il est dit, le juste vivra de la foi. Il s'adresse à des croyants, hein. C'est pas une lettre d'évangélisation, l'épître aux Romains, même si elle nous présente comment fonctionne le salut et toutes ces choses-là. Mais il s'adresse à des croyants. Et il n'est pas dit que quelques-uns vivront par la foi, ou les fanatiques de Dieu vivront par la foi, ou ceux qui ont fait l'école biblique vivront par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste, donc, c'est celui qui est déclaré conforme aux standards de la société de Dieu, c'est-à-dire personne, mais c'est aussi nous, puisque à cause de l'œuvre de Christ que nous avons célébrée ce matin encore, enfin, nous rappelant au travers de cette communion, hein, nous avons rappelé ce qu'il a fait, sa mort, sa résurrection, avec tout ce qui va avec et qu'on ne peut pas développer ce matin, mais qu'on reprendra au fur et à mesure dans cet épître. L'expiation, la justification, et qui a produit notre régénération, etc., etc. Et toutes ces choses-là qui font que si, c'est par grâce, mais je l'ai reçu par la foi, et j'ai accepté que Dieu me voit au travers de Jésus-Christ, alors il nous déclare juste. Dieu nous déclare pas juste parce qu'on avait des bonnes intentions, parce qu'on est gentil, parce qu'on va à l'église, parce qu'on lit la Bible, parce qu'on prie, parce qu'on donne de l'argent. Il nous déclare juste pour une seule raison, c'est que nous avons accepté que ce que Christ a fait soit mis à notre compte, nous soit imputé en termes bibliques et comptables. Que nous soyons vus au travers d'eux aussi. Donc, le fait de vivre par la foi se résume pas du tout ou comprend pas juste ce que nous appelons notre salut, hein, mais notre vie. Dans notre vie avec Dieu, si notre vie avec Dieu était une ligne, je dirais pas une droite, mais une ligne, même si elle est sinueuse, hein, une ligne, elle est faite de points, les uns après les autres. Le premier point de cette ligne, c'est ce que nous appelons notre salut. C'est pas très juste d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus grand que ça. Enfin, le moment dans l'histoire, dans le temps pour nous, qui sommes liés à ça, où nous avons compris, accepté, consenti, où nous nous sommes appropriés, où ça s'est passé pour nous, où nous avons reçu la vie de Dieu, où nous avons été régénérés, où nous avons été baptisés dans son esprit pour former un seul corps. Il y a eu un moment dans le temps où ça s'est passé, même si pour certains d'entre nous, grandi dans une famille chrétienne, on peut pas dire c'était le 18 octobre, hein, ça s'est fait sur une période, mais c'est quand même un point dans la ligne de notre vie, un point de départ. Et par la foi, nous avons accepté ce que Christ a fait pour nous, et Dieu a dit, tu es juste, tu es conforme au standard de ma sainteté. Pas dans les faits encore, hein, ça rejoint la doctrine de la sanctification, mais en tout cas dans ce que Dieu dit de nous et dans la façon dont il nous voit. Et on va voir un petit peu plus loin que ça réjouit le cœur de Dieu. Comme on le dit souvent, et c'est important de se le rappeler, surtout à notre époque, l'être humain n'est pas le centre de l'univers, c'est pas le centre du message de la Bible, c'est pas l'essentiel, il y a lui, et puis autour, on a tout fait ce qu'il fait, et puis Dieu fait partie des choses qui sont là pour que l'être humain ne se sente pas trop mal. Non. Hein, Dieu est à l'origine, Dieu est le but, Dieu est le point de départ et le point d'arrivée, et il nous a inclus dans ses pensées, dans son plan, et nous en faisons partie. Mais, lorsque Dieu nous voit juste, c'est-à-dire capable d'être dans sa société, d'être debout devant lui et de pouvoir échanger avec lui, pas comme un égal, bien sûr, il est Dieu et nous ne sommes pas Dieu, hein, mais d'être accepté dans sa présence, ça le réjouit. Hein? C'est un mystère pour nous, mais c'est une chose que la Bible nous dit. Et on va voir que c'est lié avec la foi et avec la justice que Dieu nous donne. Donc, le juste vivra par la foi. Notre vie de juste, elle a commencé donc le jour où, dans notre vocabulaire à nous, nous nous sommes convertis, repentis, nous avons reçu Christ, nous sommes nés de nouveau, etc. Mais cette ligne, elle est composée de points qui se suivent. Et chacun doit être vécu par la foi. Parce que c'est pas Dieu m'a sauvé à ce point-là, et puis maintenant, à moi d'essayer de devenir un grand chrétien, gentil, bon, comme Jésus-Christ. Oui, je dois devenir comme Christ, toujours plus, mais pas en essayant de le devenir, simplement en vivant par la foi, jour après jour. Et c'est pour ça que je voudrais lire un autre passage, parce que ce texte d'Habacuc que Paul reprend dans l'Épître aux Romains, il est repris encore une fois, tel quel, on pourrait dire, hein, plus ou moins texto, dans l'Épître aux Hébreux, et je voudrais vous le lire, dans Hébreux 10, 38, sauf qu'il y a, c'est un peu plus près du texte d'Habacuc, là. « Celui qui est juste à mes yeux, c'est Dieu qui parle, vivra par la foi, mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. » Alors souvent, celui-là, on le cite moins que celui de l'Épître aux Romains parce que c'est un peu bizarre, quoi. On se demande de quoi ça parle, surtout si on ne croit pas qu'on peut perdre son salut. Alors ce verset-là, il est un peu gênant, quoi, parce que ça veut dire que si quelqu'un fait pas ce qu'il faut, il va aller à l'enfer, quoi. Hein, on peut le comprendre comme ça. C'est pas du tout le sens de ce passage-là. Mais si c'est pas le sens de ce passage, de quoi ça parle alors, hein? Ça nous intéresse. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Nous avons donc été sauvés, rachetés, pardonnés, justifiés par la foi. C'est-à-dire que nous avons simplement reçu ce que Dieu nous a offert. Hein. C'est gratuit, c'est pour ça que c'est par grâce, mais c'est par la foi parce que nous avons consenti à le recevoir. Si dans ma vie chrétienne, après avoir reçu par la foi ce début de vie avec lui, je décide de faire les choses par moi-même, ça ne fait pas plaisir à Dieu. C'est tout simplement de ça que ça parle. Si vous vous rappelez, dans les évangiles, quand Jean va baptiser Jésus, hein, le ciel s'ouvre, une colombe descend, c'est des passages où on voit la Trinité à l'œuvre, hein, le Fils est sur la terre, le Père parle et le Saint-Esprit se manifeste sous la forme d'une colombe. Et il y a la voix de Dieu qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve tout mon plaisir. » Formule étrange, mais elle y est, elle est répétée dans les évangiles. Le fils fait la joie, réjouit, fait plaisir au Père. Pas dans le sens où nous on dit « Sois gentil, tu me fais plaisir. » Non. Et parce que Dieu, dans la Trinité, trouve sa joie, son plaisir dans les autres personnes de la Trinité, hein, dans ce mystère de la Trinité où le Père donne et le Fils donne et le Saint-Esprit donne et où les trois reçoivent en permanence. Et c'est pour ça que Dieu aime et Dieu donne tout le temps. Et puis c'est toute cette circulation de vie et d'amour qu'il y a dans la personne de Dieu qui est à l'origine du monde spirituel et du monde visible. Donc le Père prend plaisir à la vie du Fils, à ce qu'il est. Ben parce qu'il est juste, c'est le seul qui est juste. Enfin, c'est Dieu qui est juste, et Dieu seul est juste. D'ailleurs, quand quelqu'un va voir Jésus, il lui dit « Ah, bon maître, Dieu seul est bon. » Bon, c'est une façon de poser la question « Est-ce que tu penses que je suis Dieu ?» Mais Dieu seul est bon, Dieu seul est juste. Mais à cause de l'œuvre de Christ, ceux qui, par la foi, ont reçu, ont accepté, se sont appropriés, ont consenti à ce que les bénéfices de cette œuvre leur soient appliqués, Dieu les déclare justes. Donc tant que par la foi, je reste, et je prends une image, caché derrière Jésus-Christ, Dieu me regarde et il prend plaisir. Pas parce que ce matin j'ai été gentil, pas parce que je me suis lavé les mains avant de manger, que j'ai pas mis les coudes sur la table et j'ai pas mis les doigts dans mon nez, et que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, et j'ai été à l'église au lieu d'aller m'amuser. Non. Dieu se réjouit parce que par la foi, je reste dans cette position où je suis conscient que la seule façon que Dieu soit satisfait avec moi, c'est que je reste caché dans l'œuvre de Christ. que je dépende de lui. Et vous voyez pourquoi c'est très très important pour notre vie chrétienne, parce que dans ma philosophie de la vie chrétienne, hein, est-ce que je vis avec cette idée, Dieu m'a racheté, Dieu a payé pour moi, il a fait beaucoup, et maintenant je dois lui prouver que je suis reconnaissant. Je vais être quelqu'un de bien. Et quand je suis quelqu'un de bien, parce que je sens cette reconnaissance qui est là, et puis je veux lui faire plaisir, donc sans lui, j'arrive à faire des choses bien, et je me présente à lui, et je me dis, là, Dieu est content, parce qu'il voit que j'ai pris mon salut au sérieux, avec tout ce qu'il a fait pour moi, et moi, maintenant, je renonce à ça, je décide ça, je prends des bonnes décisions, et je m'approche de Dieu, je dis à Dieu, tu es content, là, hein? Et Dieu dit, c'est dur, hein? Je ne prends pas plaisir là-dedans. Parce que ce qui me fait plaisir, c'est que ta vie change, oui, mais qu'elle change parce que tu restes caché dans mon Fils. Parce que sinon, désolé de te dire, mais ça fait des millions d'années, pas des millions, des milliers d'années, pardon, hein, que les êtres humains essaient de me faire plaisir en faisant ce qui est bien, et ils n'y sont jamais arrivés, et ils n'y arriveront pas. Moïse a essayé, David a essayé, les autres aussi, et tous les prophètes, et Paul a essayé plus que tous. Hein. Mais après, qu'est-ce qu'il dit, hein? Il dit, ouais, toute ma justice propre, c'est-à-dire toute cette bonne intention, cette volonté, cette détermination, cette discipline acharnée à être comme Dieu veut, j'ai considéré ça comme des poubelles. Parce que finalement, c'était loin, loin, loin d'être conforme aux standards de la sainteté de Dieu. Et c'est dans ce but-là que Jésus, quand il vient sur terre, non seulement il annule pas la loi, mais il en rajoute une grosse couche. Ah, vous croyez que vous êtes des gens bien parce que vous volez pas, vous mentez pas, vous tuez pas et vous commettez pas d'adultère. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Vous avez jamais commis d'adultère, bien. Est-ce que vous avez jamais eu une pensée tordue, un peu impure? Ah ah, oui, vous avez commis un adultère. Vous avez jamais commis de meurtre? Bien. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir un sentiment de colère au fond de vous contre un autre être humain? Oui, meurtrier, etc., etc. Pourquoi Jésus fait ça? Est-ce qu'il prend plaisir à humilier les êtres humains? Non, il veut établir une chose, et c'est ce que Paul va développer après, mais dans beaucoup de versets, c'est long, hein. On le reprendra, ne vous inquiétez pas. C'est que tous nos efforts pour atteindre la sainteté sont voués à l'échec. On peut s'en approcher un peu plus, un peu moins, comme je dis souvent. Hein. Il y en a qui ont raté le train de 3 jours, puis il y en a qui l'ont raté de 5 minutes. Mais le point, c'est que tout le monde a raté le train. Tout le monde. Tout le monde. Et nous avons été rétablis dans la présence de Dieu par la foi. La foi dans l'œuvre de Christ, pas la foi en quelque chose de vague, hein, en tout ce qu'il a accompli. À cause de ça, Dieu nous a déclarés justes, mais ce que Dieu veut de nous, ça c'était le point de départ, c'était la naissance, c'est bien. Mais personne ne considère qu'un enfant qui est né, sa vie est terminée, puis on ne parle plus que de ça. Évidemment, s'il n'était pas né, il ne serait pas vivant aujourd'hui, mais le but de la naissance, c'est de vivre toute sa vie jusqu'au bout. Le but de la vie chrétienne, c'est pas de sans arrêt reparler que de ce que Christ a fait pour que je puisse enfin naître. Ce qu'il a fait, oui. Mais ma naissance, c'était un point sur la ligne, puis il y en a eu un deuxième, un troisième, un quatrième, et il y en aura un certain nombre, Dieu les connaît tous, jusqu'au point final sur cette terre, où nous passerons dans un autre monde, où là, effectivement, nous serons comme Dieu dit que nous sommes aujourd'hui, sans péché. Ça va être cool. Bien. Pour le moment, non. Mais le juste vivra de la foi. Et s'il se retire, je ne prends pas plaisir en lui. Comment je peux faire plaisir à Dieu? Comment je peux glorifier Dieu? En vivant par la foi. C'est-à-dire, je me lève ce matin et puis il fait pas beau, ça me met de mauvaise humeur et je me sens coupable parce que je suis de mauvaise humeur et je voudrais être de bonne humeur mais je le suis pas, mais je dis mais je suis un chrétien, il y a le culte, en plus c'est moi le pasteur, je dois être de bonne humeur et puis Dieu sera content avec moi et puis ben non, je suis de mauvaise humeur et je suis pas bien, et je suis triste parce que c'est plus l'été et parce qu'il y a ci et parce qu'il y a ça et parce qu'il y a le reste et là par la foi je me dis stop, comment Dieu me voit ce matin, comme hier, comme avant-hier, comme demain, comme après-demain? Il me voit à travers Christ. Parce que sinon, ça serait pas possible, je serais désintégré. Hein. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament, les gens qui voulaient monter sur la montagne quand Moïse y était avec Dieu. Hein. Ces éclairs, ces tonnerres, cette destruction qu'il y a eu derrière, la sainteté de Dieu n'a pas changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu n'est pas devenu un gentil papa gâteau parce que Jésus est venu entre temps. Alors tout d'un coup, il a décidé de prendre un cours sur les relations et il est devenu cool. Il comprend le péché, il nous aime bien. Non, c'est le même Dieu saint. Hein. Simplement, entre lui, entre sa sainteté et nous, il y a l'œuvre de Christ que nous avons acceptée par la foi et il nous a déclaré juste. Et ça, c'est ce qui doit nourrir, alimenter, conduire, garder nos vies, jour après jour, seconde après seconde, moment après moment. Parce que ce qui le réjouit, c'est que je vive par la foi. Hein. Et si je continue mon passage dans Hébreux 10, donc, celui qui est juste à mes yeux, vous voyez comment maintenant ça prend éventuellement un autre sens, vivra par la foi ou de la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Qu'est-ce que ça veut dire retourner en arrière ? Mais revenir à notre détestable manie de vouloir faire plaisir à Dieu en étant des gens bien sans lui. Hein ? Et ça ne lui fait pas plaisir parce qu'il sait que même si vous arrivez à empêcher de faire le mal, il est en vous, vous le pensez. Hein ? Et puis même si dans un domaine vous faites du progrès, vous en devenez tellement orgueilleux que c'est pire. Ou c'est pareil, donc il n'y a pas d'issue. Hein ? Restez cachés en Christ par la foi. Donc je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Ça ne parle pas du salut éternel, hein. Ça parle de sauver nos vies au quotidien dans notre marche avec Dieu. Et se perdre, c'est quoi ? C'est vivre sans Dieu. La perdition, c'est quoi ? C'est vivre sans Dieu. Donc dans ce sens-là, un chrétien peut être perdu, ça ne veut pas dire qu'il va aller en enfer le jour où il meurt. Mais chaque heure de ma vie que j'ai vécue hors de la foi en Dieu, elle est perdue. Elle est gaspillée. Elle n'est pas devenue éternelle. Je ne l'ai pas transformée en matériel pour la vie après, pour vivre avec. Elle est gaspillée. Elle est perdue. Hein. C'est ce que Paul explique dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 3 quand il parle du fondement, des récompenses et d'être sauvé comme au travers du feu. Chaque heure que je ne vis pas dans la foi en Dieu, elle est comme brûlée. Il ne reste même pas de cendre. Ça ne parle pas du fait que je vais en enfer. Ça veut dire que, tant pis, j'aurais pu en faire quelque chose d'éternel de cette œuvre en la vivant dans la foi en Dieu. Je l'ai vécu dans le péché, c'est mal, mais dans la foi en moi-même ou dans le désir de faire plaisir à Dieu pour qu'il soit content de moi. On est tous, hein, je dirais... en tant qu'être humain, psychologiquement, quelle qu'ait été notre éducation d'une façon ou d'une autre, on vit tous avec ce désir, on voudrait que nos parents nous aiment et soient fiers de nous. Et pour qu'ils soient fiers de nous, il faut qu'on réussisse et qu'on fasse ce qu'ils attendent de nous. Et on transpose tous cette façon de faire sur Dieu. Ah, le jour où j'arriverai à faire ça, là Dieu va être content de moi. Et on développe la mentalité du fils aîné, hein, je te sers, je travaille, c'est dur pour toi. Et Dieu dit, non, j'aime mieux peut-être que tu partes un moment, que tu dilapides tout, que tu comprennes que ce qui donne de la valeur, c'est de vivre dans ma présence, c'est de vivre dans ma maison. C'est pas de faire des exploits pour moi. Parce que si je voulais, j'envoie mes anges, ils feront des exploits, j'ai même pas besoin des anges, Dieu pense une chose et la chose est. Dieu a besoin de rien et de personne. Mais ce qui le réjouit, c'est de voir qu'on a compris ce qu'il voulait pour nous et qu'on l'accepte sans le payer en retour. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Car la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Ce n'est pas pour ce qu'ils ont fait qu'ils ont été approuvés par Dieu. C'est parce qu'ils ont eu la foi. Alors bien sûr, parce qu'ils ont eu la foi, ils ont fait des choses. Donc c'est lié, hein, parce que comme la Bible nous l'explique, la foi véritable produit toujours des œuvres. Donc nous, ce qu'on va voir dans le monde visible, c'est les œuvres. Donc normalement, quand on voit les œuvres que Dieu a voulu, derrière il y a la foi, qui elle ne se voit pas. Hein. Et donc, c'est pour ça aussi qu'en prenant le processus, enfin, en décrivant le processus dans un autre sens, s'il n'y a jamais de fruits et d'œuvres, on peut en tout cas se poser la question, est-ce qu'il y a la foi ? Maintenant, qu'est-ce que c'est les fruits ? Attention, pas confondre fruits et activités et les œuvres de Dieu et faire des choses pour Dieu. Hein. Mais il y a toute une réflexion là-dessus qui est intéressante. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Par la foi, verset 3, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde invisible tire son origine de l'invisible. C'est ça, vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est à chaque seconde de ma vie discerner que Dieu est là. Pas de façon mystique en étant là, oh là, la feuille de l'arbre a tremblé, c'est la respiration de Dieu. Non, la feuille a tremblé parce qu'il y avait du vent, et le vent est là parce qu'il y a des déplacements avec les colonnes d'air. Mais c'est Dieu qui a mis en place ces lois dans la physique visible qui font que la feuille a bougé. Dieu est là. Et voir Dieu dans ce monde invisible, dans chacune des moments de ma vie, dans chaque seconde de ma vie, c'est ça, vivre par la foi. Et vous voyez comment ça redonne sa place à chaque chose. Pourquoi j'étudie la Bible ? Pas pour devenir un technicien qui sait tellement de choses sur Dieu qu'il peut les expliquer aux autres, mais parce qu'en étudiant la parole de Dieu, je comprends ce monde invisible, je comprends qui est Dieu, mais pas pour être, me gargariser de ma compréhension, pour que ça m'amène à vivre par la foi, et donc par la foi, recevoir la justice de Dieu, qui me permet de vivre dans sa présence. Parce que si je pense que je peux vivre dans la présence de Dieu parce que je suis gentil, parce que j'ai pas trop fait mal, parce que je me suis amélioré, parce que cette semaine j'y suis arrivé, c'est une arrogance folle. C'est de la folie furieuse. S'imaginer que parce que ça fait 3 jours que j'ai pas de mauvaises pensées, 2 jours que je fais plus ça, ou une semaine que j'ai renoncé à ça, ça suffit pour que je me présente devant Dieu et puis discuter avec lui comme si on était dans la même classe. C'est de la folie furieuse. Hein. Mais de la même façon, lorsque, malheureusement, hein, pas qu'on ne prend pas ça à la légère, mais j'ai échoué, j'ai péché, et puis à cause de ça, j'ose pas prier, j'ose pas m'approcher de Dieu, je me sens minable, je veux pas venir à l'église, je veux plus lire ma Bible. C'est aussi de la folie furieuse. J'imagine quoi ? Que si j'avais réussi, Dieu aurait été content ? C'est pour ça que je suis tellement déprimé. Non, si j'ai péché, je confesse mon péché à Dieu, le péché c'est sérieux, c'est grave, c'est ce qui a amené Christ à mourir. C'est pas une blague. Mais, le point est pas là, hein. Et vous voyez comment on est complètement à côté de la vie chrétienne. En gros, quand j'y arrive bien sans Dieu, je pense que Dieu est content. Quand j'y arrive mal, je me sens coupable. Et dans les deux cas, autant dans l'un que dans l'autre, j'ai tort. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est que je vive par la foi. Et la foi, elle comprend les choses comme Dieu les a pensées. Comment Dieu pense les choses ? Ben, nous sommes tous complètement, à 100% irrécupérables. On va le voir dans l'Épître aux Romains, c'est développé en détail. Que nous soyons juifs, pas juifs, que nous ayons de la connaissance ou pas, la loi ou pas, que nous vivions nus dans la forêt amazonienne ou au sommet d'un gratte-ciel, tous ont péché. Pour Dieu, tous pareils. Inacceptables dans sa société. Mais à cause de l'œuvre de Christ, tous peuvent être acceptés dans la présence de Dieu. Dieu nous l'offre gratuitement, ça vient de lui, c'est par grâce. Comment je le reçois ? Je consens par la foi. C'est le début de ma vie. Et là, il me régénère, il me donne la capacité d'entrer en relation avec lui. Mais après, ce qui fait plaisir à Dieu, c'est que je continue de vivre comme ça, moment après moment. Sinon, c'est pas ça la bonne nouvelle. Hein. Et en tant qu'être humain, on est toujours d'un côté ou de l'autre. Soit je suis déprimé parce que j'y arrive pas, soit je suis tellement fier parce que j'y arrive. Puis je juge les autres sur les points où moi j'y arrive, et je me sens coupable vis-à-vis des autres par rapport aux points où moi j'y arrive pas. Mais j'ai faux dans les deux sens. Le juste vivra par la foi. Et s'il se retire de la foi, je prends pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, c'est-à-dire pour perdre nos vies, pour les gaspiller, mais de ceux qui continuent et qui, je tombe et je me relève. Qu'est-ce que ça veut dire, je tombe ? Ben, je m'aperçois que je vivais plus dans la foi. je ne vivais plus dans cette conscience que Dieu a tout fait, qu'il m'accepte comme je suis, que si j'ai péché, je dois lui remettre mon péché. Et lorsque je vis comme ça, je vais découvrir que ma vie change. C'est inévitable. Ma vie change parce que Dieu la change. Mais on est très loin d'un christianisme où j'essaie de voir quelles sont les consignes que Dieu a laissées pour moi les appliquer dans ma vie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je veux vivre avec Dieu moment après moment pour que sa vie transforme la mienne. De Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage dévoilé contemplons la face de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Romains 12 aussi va nous en parler, on le prendra. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et tout ça vient de Dieu, qui met en nous le vouloir et le faire. Donc oui, il y a de la discipline. Oui, c'est difficile. Oui, il faut vouloir. Ça ne se fait pas tout seul pendant que je dors dans mon hamac. Mais mes efforts ne sont pas là pour être gentil, pour être meilleur. Mes efforts sont là pour ne pas vivre autrement que par la foi, seconde après seconde. Et c'est pour ça que Paul va dire, après avoir expliqué tout ce qu'il avait fait, il dit « Mais ce n'est pas pour ça que je me sens juste. Celui qui me justifie, c'est le Seigneur. » Et ce n'est pas pour ça, on pourrait dire, que je me sens coupable, parce que celui qui me justifie, c'est le Seigneur. Dans les deux cas, ça marche. Mais c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus exigeant, parce que contrôler mon comportement, je peux y arriver peut-être, mais vivre de Dieu seconde après seconde, ça veut dire tout le temps. Ben oui. Mais en même temps, il vit en nous tout le temps. Oui, mais alors, il n'y a plus les moments avec Dieu, le dimanche, le jeudi, le mercredi, puis les autres, ma vie. Non, il y a ta vie avec Dieu tout le temps. Ah, 24 heures sur 24, oui, même quand tu dors, psaume 139, je m'éveille et je suis encore avec toi. Et c'est ça la vie par la foi. Donc, on va voir, vous vous rappelez, j'avais insisté beaucoup sur le verset 9, Dieu à qui je rends un culte en mon esprit. Paul est toujours dans cette perspective-là. Comment, maintenant il développe, comment je rends un culte à mon esprit en Dieu? En vivant par la foi moment après moment. Et puis il va nous expliquer pourquoi c'est possible, comment c'est possible, l'œuvre de Christ, que nous sommes pécheurs, toutes ces choses-là. Mais le but, c'est pas de se gargariser de cette compréhension de la mécanique du salut, qu'on doit faire, qui est indispensable. Mais ça, c'est le moyen pour nous amener à vivre par la foi et à rendre ce culte à Dieu en esprit et en vérité. Sinon, on a fait tout le travail sans aller jusqu'au bout. Et c'est dommage. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Et pour ça, on a besoin les uns des autres, parce que c'est pas possible tout seul. On a besoin de sa parole, on a besoin de la prière, on a besoin de la communion fraternelle. Et puis, la communication de cette bonne nouvelle va se faire aussi. Parce que quand ça fait partie de ma vie seconde après seconde, c'est pas possible que ça transpire pas d'une façon ou d'une autre, que ça se voit, que ça s'entende pas. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et vécu, disaient les apôtres. C'est pareil pour nous, si nous vivons par la foi. Donc c'est ce que Dieu attend de nous, c'est pour tous, pour tous les jours, jour après jour. Seigneur, on te remercie pour ce défi incroyable que tu mets devant nous, mais qui ne nous écrase pas parce qu'en même temps, tu nous as déclarés justes et nous pouvons l'accepter par la foi. Comprendre, réaliser, accepter que tu nous vois aussi parfaits que ton Fils à cause de son œuvre, pas à cause de nous. Et cette pensée fait venir la louange dans nos cœurs, fait venir l'adoration. C'est tellement beau. C'est tellement grand, on le mérite tellement pas, et on peut tellement en jouir, s'en réjouir, s'en nourrir, et ça te réjouit aussi. Merci pour ton plan extraordinaire, pour tes pensées qui sont tellement au-dessus des nôtres qu'on ne peut pas les saisir, mais qu'on peut les apprécier. Vraiment, viens faire ces choses en nous, Seigneur. Pas que nous les fassions pour toi, mais que tu viennes les faire en nous. Parce que nous t'acceptons, parce que nous te recevons, parce que nous te voyons, parce que nous te comprenons à chaque moment de nos vies. Merci Seigneur pour cela.